VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 24 janvier 2020, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le président Donald Trump a été accusé hier de s'être pris pour un roi par les procureurs démocrates à son procès en destitution ici à Washington.
En Guinée, 3 civils ont été tués dans de nouveaux affrontements hier à la baie entre habitants et forces de sécurité.
En République démocratique du Congo, premier anniversaire de la présidence de Félix Tshisekedi, ce sera en seconde partie de cette édition.
La Chine relève à 25 morts et à 830 cas le bilan des victimes de l'épidémie due au coronavirus.
Le président américain Donald Trump promet dans les jours à venir son plan de paix pour le Moyen-Orient, plan déjà déclaré mort-né par les Palestiniens.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Ici à Washington, l'accusation a assuré jeudi, au troisième jour du procès historique en destitution du président Donald Trump devant le Sénat, que M. Trump méritait d'être destitué parce qu'il s'était pris pour un roi. Au lendemain d'une séance consacrée à exposer les faits, les procureurs démocrates se sont évertués à démonter les arguments avancés dans les médias par les défenseurs du président qui ne se sont pas encore exprimés à la barre. Jean-Roger Bion fait le point.
D'emblée, Jerry Nadler, qui est également président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a accusé le locataire de la Maison-Blanche d'avoir eu une conduite mauvaise, illégale et dangereuse. Le président Trump a commis un abus de pouvoir en demandant à l'Ukraine d'annoncer une enquête sur Joe Biden, son adversaire potentiel, à la présidentielle du 3 novembre, afin de le mettre à genoux, a plaidé M. Nadler. Pour lui, la destitution est la réponse ultime de la Constitution à un président qui se prend pour un roi. Les démocrates ont voulu prendre au mot les défenseurs de Donald Trump qui affirment que la procédure de la destitution n'est pas pertinente. Au total, l'accusation dispose de 24 heures sur 3 jours pour défendre son dossier. À partir de samedi, ce sera le tour de la défense pour la même durée. Puis les deux camps auront 16 heures pour répondre aux questions posées par les sénateurs par écrit. Ils devront ensuite décider à la majorité simple s'ils veulent prolonger l'exercice en convoquant de nouveaux témoins, comme le réclame l'accusation. Sinon, ils passeront au vote sur la culpabilité du président. Il faudrait une majorité des 2/3, 67 voix pour le destituer, un seuil a priori inatteignable, la Chambre haute étant sous le contrôle du Parti républicain de M. Trump.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ailleurs dans le monde, en commençant par l'Afrique, en Guinée, 2 personnes ont été tuées hier à la baie, dans des heurts entre des habitants et les forces de sécurité. La baie est l'un des foyers de la contestation qui secoue le pays depuis 3 mois. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le collectif qui anime la contestation n'avait pourtant pas appelé à la mobilisation, mais les tensions sont restées vives à la baie dans le centre du pays. La ville est en ébullition, a déclaré hier le maire Mamadou Aliou Lali Diallo, qui ajoute qu'il y a eu 2 morts et au moins 10 de blessés, pointant du doigt les tirs des forces de l'ordre. Depuis le début des manifestations à la mi-octobre, au moins 23 civils et un gendarme ont été tués dans les violences. Les organisations de défense des droits humains dénoncent un usage excessif de la force. Un collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile a fait descendre à plusieurs reprises des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans la rue. Il réclame que le président Alpha Condé renonce au projet qu'il lui attribue de se représenter fin 2020, alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. M. Condé, 81 ans, se garde depuis des mois de se prononcer clairement.
Au Mali, 2 soldats français de l'opération anti-djihadiste Barkhane ont été blessés par l'explosion d'un engin explosif improvisé au passage de leur camion ravitailleur dans la région de Tombouctou, dans le nord du pays, a annoncé jeudi soir l'état-major français. Cette attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation djihadiste liée à Al-Qaïda.
En Angola, Mario Leite da Silva, président du conseil d'administration d'une banque locale, a démissionné au lendemain de la publication l'utilisation de son nom dans les accusations de corruption contre la milliardaire Isabel dos Santos. La fille de l'ancien président Eduardo dos Santos est accusée par la justice de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent. La milliardaire, surnommée la princesse, est également accusée de trafic d'influence, abus de biens sociaux et faux en écriture durant son mandat à la tête du groupe pétrolier public Sonangol.
Le Libyen Mustapha Al-Imam, capturé en Libye puis amené aux États-Unis en 2017 pour y être jugé, a été condamné jeudi à 19 ans de prison pour son rôle dans l'attaque d'un complexe diplomatique américain et d'une annexe de la CIA à Benghazi en 2012. Cette attaque avait choqué les États-Unis le 11 septembre 2012 et avait causé la mort de l'ambassadeur américain John Christopher Stevens, d'un employé du département d'État et de deux employés de la CIA.
La Chine a relevé vendredi à 25 morts et à 830 cas, le bilan de l'épidémie dû à un mystérieux virus, a indiqué la Commission nationale de la santé. Le précédent bilan faisait état jeudi de 18 morts et plus de 600 cas de contamination avérée, en grande majorité dans la province de Hubei, dont Wuhan est la capitale. Peu avant le nouveau bilan de vendredi, l'Organisation mondiale de la santé avait décidé de ne pas déclarer d'urgence internationale face à ce nouveau coronavirus. L'OMS demande à Pékin d'assurer que le confinement de millions d'habitants soit de courte durée. Précision de Jacques Aristide.
La réunion du comité d'urgence de l'OMS a duré 2 jours. Son directeur général dit ne pas déclarer pour l'heure une urgence de santé publique de portée internationale. Mais Tedros Adhanom Ghebreyesus ajoute ceci. Ne vous y trompez pas, c'est une urgence en Chine. Ce n'est pas encore une urgence sanitaire mondiale, mais cela pourrait le devenir, avertit-il. La Chine a confiné quelques 20 millions d'habitants autour de Wuhan. Le patron de l'OMS estime que la Chine a pris les mesures qu'elle juge approprié pour contenir la propagation du coronavirus à Wuhan et dans d'autres villes. Il dit espérer qu'elles seront à la fois efficaces et de courte durée. Et pour l'instant, ajoute-t-il, il n'y a aucune preuve de transmission interhumaine en dehors de la Chine.
L'administration Trump va limiter les visas octroyés aux femmes enceintes soupçonnées de vouloir venir aux États-Unis pour que leur enfant bénéficie automatiquement de la nationalité américaine à la naissance, ce qu'on appelle le droit du sol. Le point avec Irénée Herman-Ungbo.
À compter d'aujourd'hui 24 janvier 2020, le département d'État ne va plus délivrer de visa de visite temporaire aux étrangers qui veulent entrer aux États-Unis pour du tourisme de maternité, a annoncé hier la Maison-Blanche dans un communiqué. Les nouvelles règles visent clairement les femmes qui se rendent aux États-Unis pour y accoucher afin de permettre à leur enfant d'obtenir automatiquement et de manière permanente la nationalité américaine. Ce changement réglementaire est nécessaire pour renforcer la sécurité, le système d'immigration des États-Unis et l'intégrité de la citoyenneté américaine, explique la présidence américaine. Elle estime que l'industrie du tourisme de maternité menace d'être une surcharge pour les hôpitaux du pays, sans compter qu'elle alimente les activités criminelles. Mettre fin à ces failles flagrantes du système américain va permettre de combattre ces abus endémiques et en fin de compte protéger les États-Unis, a insisté la Maison-Blanche, assurant vouloir aussi défendre l'argent des contribuables américains. Il suffit de naître aux États-Unis pour devenir américain. Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration une de ses priorités, avait ouvertement menacé de s'attaquer aux droits du sol.
Par ailleurs, le président Trump a annoncé qu'il dévoilerait son plan pour mettre fin au conflit israélo-palestinien avant la visite la semaine prochaine à Washington du premier ministre Benjamin Netanyahou et de son rival Benny Gantz. « C'est un excellent plan », a-t-il déclaré hier aux journalistes à bord d'Air Force One. Préparé depuis le printemps 2017 dans le plus grand secret, ce projet, dont la publication a été maintes fois reportée, est déjà jugé mort-né par les Palestiniens.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le gouvernement béninois autorise le recrutement d'experts dans le cadre de la procédure de passation du marché pour la construction, l'exploitation, la maintenance et le transfert d'une centrale thermique de 120 MW en régime Obote sur le site de Maria Gleta, rapporte le site cotonou.com. Le mode Obote permet de transférer certains risques aux concessionnaires selon des modalités contractuelles bien définies. Le groupe Eurasien Resources suspend ses opérations à Chambichi en Zambie en raison d'une pénurie de concentrés de cuivre et de cobalt nécessaires à la production de la cathode, une électrode à partir de laquelle un courant conventionnel sort d'un appareil électrique polarisé. Le mineur explore d'autres sources d'alimentation afin de reprendre ses opérations. Il pourrait supprimer 229 emplois fin janvier. Pour terminer, le négociant mondial de matières premières, Trafigura, est en discussion en vue d'acheter plus de 10% des parts d'un général angolais dans sa filiale de distribution de carburant Puma Energy d'ici la fin de l'année. Les espoirs de Trafigura d'inscrire Puma sur le marché sont entravés par la présence du général en tant que partie prenante importante dans la société. Le général à la retraite, Leopoldino do Nascimento, y détient 15% des parts, Trafigura 49% et la société d'État angolaise Sonangol 28%.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Victor Moses, prêté à l'Inter Milan.
Oui, l'international nigérien de Chelsea a été prêté jusqu'à la fin de la saison à l'Inter Milan qui dispose d'une option d'achat fixée entre 10 et 12 millions d'euros selon les médias italiens. Victor Moses, 29 ans, a connu sa meilleure saison en 2016-2017, celle du titre en Premier League sous les ordres d'Antonio Conte, actuel entraîneur de l'Inter Milan, passé par plusieurs autres clubs anglais comme Liverpool, West Ham ou Wigan. Moses était prêté depuis le début de la saison à Fenerbahçe, où il a peu joué.
Les demi-finales de la CAN de handball se jouent ce soir en Égypte.
L'Égypte fera face à l'Algérie dans un autre derby du nord de l'Afrique. En effet, tous qualifiés avant la dernière journée, le pays hôte a pris la tête du groupe M2 en venant à bout de cette même Algérie 26-22. En seconde demi-finale, la Tunisie s'opposera à l'Angola. En plus des finalistes de cette édition, on connaîtra les détenteurs des deux derniers tickets pour la Coupe du monde de handball 2021 en Égypte. La République démocratique du Congo, le Gabon et le Maroc tiennent le bon bout.
Jour historique hier pour le Cameroun à la Tropicale Amissa Bongo.
Oui, pour la première fois, le Cameroun a remporté une étape sur l'épreuve. Cette victoire porte la griffe de Clovis Kamzong. Il a fait son numéro sur la plus longue étape de cette 15e édition, courue entre Lambaréné et Mouila, 190 km. Le Camerounais s'est imposé au sprint en 4h04 minutes 42 secondes devant le Rwandais Joseph Alléluia et le Marocain El Oukaïne Sabahi. Pas grand changement en revanche au classement général. L'Érythréen Nathanaël Tesfazion garde le maillot jaune. Il devance de 4 secondes le Français Jordan Levasseur. Aujourd'hui, la 5e étape amènera le peloton de Lambaréné à Kango sur 130 km.
En basketball, premier match délocalisé de la NBA ce soir à Paris.
C'est la grande attraction de l'année en basketball qui va se dérouler à Paris-Bercy. Un match de NBA, mais pas un match amical ou de gala. Un match de championnat délocalisé qui opposera les Bucks de Milwaukee au Charlotte Hornets. C'est la première fois qu'une rencontre de NBA est organisée en France et elle a suscité un énorme engouement. Plus de 100 000 demandes de billets pour 16 000 places disponibles. Les fans veulent côtoyer leurs stars comme le Frenchy Nicolas Batum de Charlotte.
C'est particulier, c'est un moment quand même assez émouvant dans une carrière. En tant que joueur non américain, de faire un match NBA dans son propre pays, c'est quand même assez particulier. C'est vrai que Tony et Ronnie ont joué ces matchs-là, mais là, c'est un match officiel.
Nicolas Batum, joueur de Charlotte Hornets. En face, le phénomène grec d'origine nigériane, Gianni Antetokounmpo, du côté de Milwaukee, dit bien profiter de l'accueil chaleureux de ses fans, mais il ne perd pas de vue l'enjeu principal, gagner ce match.
C'est un peu dur parce que d'habitude, quand je suis à Paris, c'est hors saison, c'est des vacances, c'est toute cette ambiance, beaucoup de médias, beaucoup d'excitation. Ça ressemble presque à une pause. Au bout du compte, nous avons un travail à faire qui est de gagner le match. Il suffit d'essayer de rester chanceux et de prendre soin de mon corps.
Gianni Antetokounmpo, joueur des Milwaukee Bucks. En attendant ce choc délocalisé à Paris ce soir entre Milwaukee et Charlotte, Idrissa, on prend les nouvelles des résultats de la nuit dernière en NBA avec vous.
Eh bien, nouvelle victoire des Los Angeles Lakers de LeBron James, bien que ce soit avec une équipe pas particulièrement brillante, Brooklyn. Le résultat, 128 à 113. Washington, qui tout comme Brooklyn n'est pas une très bonne équipe, a de son côté battu une autre équipe médiocre, Cleveland, 124 à 112. Quant au match entre Dallas et Portland, eh bien, je vous donne rendez-vous à 7h temps universel pour le résultat.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, le parti présidentiel, en proie à de fortes dissensions internes, vient d'exclure l'un de ses membres fondateurs, Moustapha Diakhaté, ex-chef de cabinet du président Macky Sall. Monsieur Diakhaté est aussi ancien député et président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Il a été exclu du parti pour avoir créé un courant parallèle afin, dit-il, de redresser la pente de descente sur laquelle s'est engagé le président Macky Sall. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagay.
Prise de position contre le chef de l'État, déclaration et soutien aux manifestations contre le gouvernement, Moustapha Diakhaté s'est progressivement démarqué de la mouvance présidentielle jusqu'à la création d'un courant au sein de cette dernière. C'est d'ailleurs cet acte qui a précipité son exclusion du parti créé par le président Macky Sall. Pour Sohna Maguette Ndiaye, responsable femme de l'APR, cette sanction contre son membre fondateur est tout à fait justifiée.
Quand on est dans un parti, on doit incarner tout ce qui doit rendre le parti viable. Mais rester dans son coin et dénigrer le parti et dévoiler ses secrets, c'est comme si on n'était plus membre du parti. Cela signifie s'investir à moitié. Je pense que ceux qui sont au sein du parti doivent croire aux valeurs du parti même. Si certaines décisions ne plaisent pas à l'ensemble, on peut le régler en interne, mais pas le manifester à l'externe.
Du côté de l'opposition, on estime que l'ex-chef de cabinet du président Macky Sall a eu une attitude républicaine en prenant position. Pour Yoroseck du parti Réumi, cette exclusion montre les limites du système démocratique des partis politiques sénégalais.
Ça pose la problématique d'abord de la démocratie dans nos partis, mais aussi la liberté d'expression. Et maintenant, de comme diront, avait-il le droit en tant que militant discipliné, en tout cas de faire ce qu'il a fait, si les instances du parti marchent? Je pense qu'il n'avait pas le droit, en tout cas, d'exposer ces problèmes-là sur la presse. Si les instances du parti marchent, j'insiste là-dessus, Monsieur Moustapha Diakhaté devait aller dans ces instances-là et donner son point de vue par rapport à un nombre de choses.
Le cas Moustapha Diakhaté n'est qu'un maillon d'une chaîne de révolte au sein du parti présidentiel. C'est du moins l'avis de l'analyste politique Sidiki Daf, qui estime que si ces dissensions continuent, l'APR ne va pas résister après le départ de Macky Sall du pouvoir.
En fait, c'est vraiment un parti à problème. Bon, tu crois en fait que Moustapha est peut-être le plus médiatique? Est-ce qu'en fait son truc ça annonce un déclin? Je fais tout juste une hypothèse. En fait, l'APR en tant que telle qu'elle est structurée, j'ai pas vu émerger un autre dirigeant autre que Macky. Donc je ne vois pas en fait quelle serait sa capacité à survivre après le départ de Macky. À moins qu'elle change, mais en fait la manière dont elle fonctionne, je ne vois pas. Et effectivement, c'est un parti qui est très compliqué quand on le regarde de loin. C'est en fait des querelles internes, des coques en jambes à n'a plus finir. Moustapha aussi s'est mis dans cette pagaille généralisée politique, parce qu'une armée mexicaine, on ne sait pas qui est chef ou qui ne l'est pas.
Le parti du président Macky Sall est secoué par des querelles internes depuis plusieurs mois et se dirige inéluctablement sur la même voie qui a conduit le PDS d'Abdoulaye Wade à sa chute. Cependant, certains observateurs estiment que l'APR devrait tenir tant que le président Macky Sall en assure le leadership. Au-delà, rien ne garantit la survie du parti. À Dakar, Sedina Bagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
« 24 janvier 2020, il y a un an, jour pour jour, que le président Félix Tshisekedi a été investi comme successeur de Joseph Kabila et nouveau dirigeant de la République démocratique du Congo. » Quel bilan? Eh bien, Eddy Sango a joint à Kinshasa l'éditeur du quotidien La Prospérité, Marcel Ngoyi.
On peut considérer que le discours du chef de l'État, lorsqu'il a dressé l'État de la nation devant les deux chambres de parlement réunies en congrès, a établi un certain nombre de réalisations en termes de ce qu'il a pu mener comme action. Globalement, lui-même, le président de la République, a dit que la première année ici aura été une année de prise de contact. Une année pour déblayer les terrains, une année pour renforcer, pour réchauffer les relations.
Il a consacré cette année à l'action. D'abord, il a promis la construction de quelques infrastructures, mais où en est-on ? On parle par exemple de saute-mouton, mais où en est-on ?
C'est difficile de vous dire aujourd'hui, on a atteint ça parce que la première année n'aura permis au chef de l'État actuel que de mettre en place les mécanismes devant faire en sorte que le nouveau système puisse fonctionner. Allusion au fait, par exemple, à la mise en place des institutions. Vous êtes élu président, investi président, mais vous trouvez un gouvernement qui est en place qui dure plusieurs mois. Et finalement, il fallait trouver un consensus parce que c'est un gouvernement de coalition, c'est un régime de coalition. Il fallait trouver un consensus autour d'abord du premier ministre. Ça a pris 5 mois. Il fallait mettre en place un gouvernement. On est arrivé jusqu'au mois de septembre 2019. Il était question de voter un budget parce que pour passer à l'action, il faut des moyens. Les moyens, le budget qui était en cours était un budget épuisé. Donc, on a passer du temps à installer les institutions, à prêter ce qu'il faut, à prêter la loi des finances, à mettre en place les mécanismes qu'il faut pour décoller. C'est justement ça qui a permis au président, parallèlement à l'installation de ces institutions, il y a eu une phase importante concernant la relance des relations sur le front diplomatique.
Un an depuis que le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, l'insécurité persiste dans l'est du pays. Quel bilan faire ?
Aujourd'hui, Beni n'est pas qu'une vaste zone d'opération où les FARDC sont en train d'expérimenter leur puissance de feu, mais il y a beaucoup d'autres zones. En Ituri, il y a aujourd'hui d'autres fronts politiques. Ce qui est important, c'est leur programmation, c'est aussi les moyens, c'est aussi avoir les capacités, la volonté politique de réaliser et engager le pays sur le nouveau rail.
Sur le plan politique, le gouvernement est basé sur un accord de coalition. Quel bilan faire de cette coalition ?
Contrairement à ceux qui pensent que les contradictions peuvent forcément renverser le pays, moi je pense que les contradictions sont le moteur du développement. Je jette plutôt un brin de sur la suite. Il suffit que les deux familles politiques qui sont aujourd'hui organisées en coalition puissent se regarder en face, discuter sur des questions sensibles, trouver des issues pour que finalement, ils arrivent à avoir des interstices pouvant permettre de refaire décoller ce pays. C'est même une opportunité que les deux forces politiques, lorsque vous avez des gens qui ont passé 37 ans d'opposition, qui savent organiser la contestation permanente, et vous avez des gens qui ont passé plus de 18 ans à gérer, qui ne sont pas forcément passés par l'opposition politique, qui sont venus par la force des armes. Moi, je crois qu'il faut qu'on réponde à ce qu'on appelle l'union fait la force.
Joint à Kinshasa, Marcel Ngoyi, éditeur du quotidien La Prospérité.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Kisangani, sur 97.7 FM.
Retour encore sur cette photo qui a ému plus d'un sur les réseaux sociaux au Burkina Faso. Il s'agit de celle de Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, en détention à Ouagadougou pour son implication dans le coup d'État de 2015. Sur la photo, l'homme, malade, apparaît très affaibli et le visage aminci. Ses proches continuent de plaider pour qu'il puisse bénéficier de soins appropriés à l'étranger. Aziz Dabo est le porte-parole de la NAFA, la nouvelle alliance du FASO, le parti de Djibril Bassolé. Bakassi Koura lui a d'abord demandé si la photo en question était authentique.
Je confirme l'authenticité de la photo et je peux me permettre de dire à minima parce que son état de santé s'est encore dégradé et il a été interné à l'hôpital Express Compaoré le mercredi passé à Ouagadougou.
Et depuis que la photo a été publiée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, quels sont les types de réactions que vous avez reçues ?
Je peux dire que au sortir de la photo, très rapidement, certains militants du parti au pouvoir ont essayé de faire croire que c'était un montage. Après, on nous a fait croire qu'une autorisation avait été signée. D'autres ont dit que c'était pas du tout vrai. Mais ce que je peux saluer, c'est l'humanisme, c'est l'élan de solidarité après la publication de cette photo qui a permis que certains leaders d'opinion, certains leaders politiques prennent la parole et invitent le gouvernement du Burkina Faso à lui permettre d'accéder à des soins plus adéquats. Tout semble aller dans le bon sens, mais nous restons très prudents parce que, de par le passé, des promesses et des promesses ont été faites à plusieurs reprises. Cette photo qui montre le général Bassolé diminué après avoir rendu autant de services au Burkina Faso, cela n'honore point notre pays en réalité.
On sait qu'il avait déjà été évacué, hein, notamment en Tunisie. Pourquoi est-ce que ce n'est plus possible?
En réalité, il a été évacué à Tunis par l'État burkinabé. Mais ce qu'il faut préciser par rapport à cette évacuation, c'est que, au vu de la pathologie dont il souffre, qui fait partie des maladies rares, le professeur qui est en charge de son état de santé au Burkina Faso avait répertorié liste d'hôpitaux de référence qui pouvaient lui permettre d'avoir des soins adéquats. La destination Tunis n'était pas forcément celle qu'il fallait pour lui permettre d'accéder à des soins plus appropriés. Donc ce fut plus ou moins le choix du gouvernement du Burkina Faso de l'orienter vers Tunis. Malheureusement, ce n'était pas les soins appropriés. Et d'ailleurs, à Tunis, les soins ont été interrompus. Il était obligé de retourner au Burkina Faso.
Concrètement, qui doit l'autoriser à sortir? Est-ce que c'est le juge ou est-ce que c'est le gouvernement?
Je voudrais rappeler que le juge lui avait donné deux autorisations. La première datant du 2 août, la deuxième datant du 20 août. Et le 20 août, il lui a été permis aussi d'avoir un passeport ordinaire parce que son passeport diplomatique avait été retiré de son retour de Tunis. Mais les autorités en place au Burkina Faso avaient refusé de signer son passeport. Probablement aujourd'hui, c'est le juge d'application des peines qui doit autoriser, ou la chambre d'appel, si je ne me trompe, du tribunal militaire, qui doit autoriser un départ à l'étranger.
Aziz Dabo est le porte-parole de la nouvelle alliance du Faso, le parti de Djibril Bassolé.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le slam, pour dépeindre la réalité du Gabonais des bidonvilles de la capitale Libreville, c'est le credo de Franck Noël Makosso. Il est connu dans les quartiers populaires de Libreville pour ses mélodies parlées et improvisées. Notre correspondant Ismaël Obiangze nous le fait découvrir.
On demande aux Gabonais d'ouvrir les yeux, mais à quoi ça sert?
C'est ici au carrefour Awenji, un quartier sud de Libreville, que Franck Noël Makosso a grandi.
Gère tous les jours un peu plus.
Mais non, comme l'appellent ses amis d'enfance, revient assez régulièrement sur ses pas pour des séances de rap et de slam.
Le Gabonais a un problème de suivi. Et pour saigner l'abcès, j'ai essayé d'essuyer la sueur qui sied sur les fers de nos mères en assignant trois lettres. Au mot poème, j'ai écrit le mot problème et voici le problème du Gabonais.
Avec une articulation travaillée sur une voix posée, Noé lancé.
Le constat est amer depuis plus d'un cinquantenaire.
Et plus rien n'arrête le triple champion national de slam. La cadence est faite d'enchaînements de mots pour faire le portrait du Gabonais tel qu'il le connaît.
Le Gabonais préfère faire la fête et paye les frais selon la droiture de sa raison. Donne 30 millions à un Gabonais, à dépit de feindre les faits. Il appellera ses frères, il achètera une voiture, mais oubliera expressément de se construire une maison.
Étudiant en licence à l'Institut des techniques avancées de Libreville, nous affirme tout haut ce que d'aucuns disent tout bas.
Sachez aussi que la raison se fait sourde lorsque les soucis font plus de bruit que les sous.
Dans l'entretien qu'il a accordé à VO Afrique, le jeune homme de 30 ans explique les motivations de son texte.
Alors j'ai décidé d'écrire ce texte un peu comme une remise en question, en me disant que le problème du Gabon, c'est le Gabonais. Mais finalement, quelle peut être la solution? Et c'est en écrivant, je le dis dans un autre texte, c'est en écrivant les mots émotionnels que je me suis surpris à traduire l'émotion des mots. En fait, c'est en écrivant le problème que j'ai trouvé la solution. Et pour moi, la solution, c'est l'amour. Et l'amour, je l'ai trouvé dans la poésie, dans le poème. Ce qui fait que je dis dans le texte, il te suffit simplement d'enlever les trois lettres rebelles qui sont R, B, L du mot problème pour enfin écrire le mot poème.
Tel un credo, Franck Noël Makosso considère son engagement comme un cri à la jeunesse afin qu'elle se prenne en main. Nous voit déjà les choses en grand. Il est promoteur des ateliers de slam dans les écoles. L'idée du projet est d'amener les élèves à maîtriser l'art oratoire.
En vérité, je vous le dis, ceux qui chissent le leader, eux aussi ont un problème de leadership.
Libreville, Ismaël Obiangze, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.